Merci Gaël. Donc vous trouverez les. On publiera les présentations le plus rapidement possible, hein, donc comme pour les années précédentes, donc ce qui fait que vous pourrez de façon interactive trouver les différentes données qui vous ont été présentées ici. Interverti, on a encore quelques minutes pour quelques questions, et puis donc on fera la pause à 16h15.
Oui, Daniel Carol, directeur de l'EPS Alsace-Nord Brunat. Je voudrais revenir sur ce que tu disais, Gaël, par rapport au manque d'informations sur l'activité dans le champ médico-social. Donc tu as une vision, je dirais, macro, en disant, voilà, en vision macro, on ne sait pas trop quelle est l'activité du médico-social. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de collègues ici dans la salle qui peuvent dire qu'il en est également ainsi de la connaissance micro.
Micro, d'accord.
Hein, micro. Celui dans lequel je cours.
Oui, il y en a compris, hein. Merci.
Alors, j'en profite tant qu'il marche encore. Donc, voilà. Parce que quand on cherche à évaluer l'exécution et la bonne exécution des conventions qui nous lient souvent à de très nombreuses structures médico-sociales, donc on a les pires difficultés à obtenir des réponses.
C'est-à-dire des réponses.
C'est-à-dire, alors j'ai mon idée sur la question, sur la cause justement. Tu sais qu'on a dans ton établissement aussi, des conventions de coopération, de collaboration avec des structures médico-sociales pour faire une espèce de psychiatrie de liaison, mais dans le champ médico-social, notamment du handicap psychique en particulier. Personnes âgées, ça va un peu mieux, parce que souvent ce sont des structures publiques qui sont un peu moins regardantes sur la diffusion des infos, et on a les pires difficultés à analyser ensemble les activités communes. Alors j'ai mon idée sur la réponse. J'ai posé un peu en pointillé la question, parce que la question et surtout l'inquiétude qu'ont ces structures, c'est de se dire, si on met en exergue une activité que nous portons, nous, la psychiatrie, dans leurs établissements, il nous viendra peut-être à l'idée de la
facturer.
Eh bien, évidemment.
Alors, Daniel, aujourd'hui, le RIMPE permet de tracer l'activité qui est faite par ces équipes dans ces espaces-là. C'est-à-dire que le champ médico-social, il y a un code lieu, je ne me rappelle plus le numéro, peut-être le 06, je dis une bêtise, dans le RIMPE qui permet ça. Donc aujourd'hui, on sait le soin qui est produit au bénéfice de ces structures. Après, ce qui est un peu plus compliqué, je pense, à évaluer, c'est quand notamment on essaye d'être sur des projets, on le voit bien, de réduction capacitaire, pour justement les problématiques de longue évolution, c'est d'arriver à savoir si effectivement les patients qui étaient en longue évo chez nous, est-ce qu'ils sont passés dans le champ médico-social. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui, faute de PMSI ou d'équivalent dans le champ médico-social, qu'on a du mal à tracer. Quoi.
Et je complète, et je termine là-dessus, pour ne pas monopoliser donc la parole, et cette difficulté est pire encore lorsqu'il y a intervention par des conventions d'activité d'intérêt général, les fameuses AIG, et donc notamment en Alsace, je parle sous contrôle aussi des collègues, notamment François qui est dans la salle, dans la mesure où nous avions obtenu, et c'est toujours encore le cas, un cofinancement partiel des activités d'intérêt général dans les structures médico-sociales lorsqu'elles sont dans le champ du handicap, et qu'au regard de la mise en œuvre des péréquations, on n'est pas sûr, je parle sous contrôle Simone Daumont, notre ministre des Finances qui suit ça, on n'est pas sûr que ce cofinancement va perdurer. Et donc, pour nous, c'est vachement important d'avoir une connaissance de ces activités, parce qu'on ne va peut-être pas indéfiniment travailler à fond perdu, même si on a la pleine conscience et la connaissance de l'intérêt d'avoir des interventions en amont, pour éviter d'avoir des situations qui dégénèrent et qu'on va retrouver des résidents de structures médico-sociales en crise. Mais tout ceci a un coût. Et avec des péréquations budgétaires, il faut bien qu'au regard de l'activité, mon DIM, entre guillemets, Dr Pinzarula aussi, par rapport à cette reconnaissance de l'activité, ce qui n'est pas de raison à ce qu'on ne la recense pas et qu'elle ne puisse pas être reconnue lorsqu'on fait des ratios de productivité, donc en faisant la division entre les ressources mises en œuvre et l'activité générée. Donc voilà, je voulais intervenir là-dessus. Et je pense que ce n'est pas lié au fait du hasard, qu'il y a une espèce d'omerta du médico-social en matière.
Je, ben après, sur l'angle, sous l'angle de la statistique, et parce que moi, je ne vais pas répondre sur autre chose. Hein, enfin, je pourrais, hein, mais... Enfin, l'AIG, ça participe, me semble-t-il, à l'attractivité aussi du secteur et d'une complémentarité. Bon, c'est complexe. Après, aujourd'hui, quand nos professionnels sont en AIG, ils ne codent pas RIMP pour nous. Hein, ils ne sont pas du tout chez nous. Hein, donc, bon, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un sujet. Enfin, ce qui serait intéressant, c'est d'évaluer le poids de ce sujet, quoi, économiquement, j'entends. Bon, puis après, c'est encadré par des textes. Hein, donc, bon, après, revenir dessus, c'est compliqué. Mais je comprends effectivement que c'est un sujet d'inquiétude parce qu'on pourrait après tout rechercher des relais de croissance sur des activités comme ça. Alors oui, effectivement, quand les financements se resserrent, ce qui est le cas en ce moment, hein, au contraire, je pense qu'on le risque c'est de se recentrer sur notre cœur de métier, mais on risque de passer à côté justement du défi qui est devant nous, celui du virage ambulatoire, avec la réduction de nos capacités d'hospitalisation. En tout cas, bon, nous, c'est pas le raisonnement qu'on tient. Hôpital Drôme Vivarais, pardon, vous m'habituez à plus dire Valmont. Enfin, voilà, on n'est pas dans ce raisonnement-là. Après, voilà, c'est un sujet qui est long hein, à développer.
Une dernière question.
Oui. Vous m'entendez? Bonjour, Jacques Laëli Montesson. Je vous remercie de la qualité de vos présentations, même si j'ai raté une partie de la première. Je voudrais vous faire part d'un ressenti personnel. Vous présentez une telle profusion d'indicateurs qu'on a des difficultés à s'y retrouver, à la fois dans un diagnostic territorial, mais aussi dans une analyse simple de positionnement de son établissement sur le territoire ou sur la région. Et en plus, on a parfois l'impression que dans cette profusion d'indicateurs, on peut, selon ceux qu'on choisit, leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Et donc, je suis en demande d'un minimum de méthodologie, si je puis dire, d'utilisation de ces indicateurs, avec l'impression que si on veut se comparer, parce qu'après tout, l'intérêt, c'est de faire des comparaisons, qu'on soit plusieurs à utiliser à peu près les mêmes, selon les mêmes méthodologies. Et c'est une impression tout à fait personnelle.
Oui, alors bon... La méthodologie commune, c'est Atlas Santé, c'est la présentation de Magali Koldéfi que malheureusement vous avez ratée, qui aurait pu effectivement vous mettre sur un même. Alors il faut avoir une méthode, il y a des indicateurs, il y a des indicateurs normés, etc., accessibles. Après, c'est peut-être ma capacité à être bon pédagogue, je suis peut-être allé trop vite, je vous ai peut-être présenté trop de choses. Mon propos était essentiellement pour des techniciens, puisque jeudi après-midi, on est essentiellement là pour servir des techniciens, donc des DIM et des contrôleurs de gestion. J'ai envie de dire que c'est leur job aussi de transformer cette matière en un diagnostic intelligible pour leur direction. C'est aussi ça. Voilà. Donc, effectivement, j'ai été très technique. Et par contre, après, vous dites on peut leur faire dire ce qu'on veut. Je ne sais pas. Après, on peut les interpréter. Hein, et heureusement, d'ailleurs, que l'esprit humain est capable de se faire sa propre opinion à partir de ces données-là. Mais tous les indicateurs que j'ai présentés vous permettent aussi de vous benchmarker, de vous comparer à des contextes départementaux, régionaux, voire nationaux.
Ne le prenez pas mal. Ce n'était pas une critique personnelle.
Non, vous inquiétez pas.
C'est dû à la matière. Je veux dire, quand en matière d'activité hospitalière, en psy comme ailleurs, on peut multiplier à foison, à volonté, les indicateurs. Et donc, ce n'était pas une critique personnelle, mais on a besoin, en fait, en plus de l'énoncé de ces indicateurs et de leur explication, d'un minimum de coordination, de réflexion coordonnée dans l'analyse que l'on en fait, dans l'utilisation que l'on en fait.
Je ne sais pas si vous avez eu le début de ma présentation, mais c'est ce que je proposais, c'était un plan d'analyse avec quatre dimensions croisées, etc. L'idée, c'est ça. Après, c'est vrai que le risque, c'est de... quand on débute dans ce type d'analyse, c'est de se noyer au milieu de toutes ces données-là et de ne pas effectivement avoir un fil conducteur pertinent qui va servir une analyse, un diagnostic pertinent, c'est vrai. Après, là, l'idée, c'est de proposer un annuaire, une méthode, chacun après est libre de se l'approprier. On décrit une réalité qui est complexe, donc forcément avec des indicateurs un peu complexes.
Après, moi, juste pour compléter dans le projet d'Atlas, après, dans les fameux rapports de territoire, on propose une sélection d'une cinquantaine d'indicateurs, à peu près. Mais l'idée, c'est que souvent, c'est qu'un indicateur va résumer plusieurs autres indicateurs. Donc, je pense que c'est important d'avoir une sélection, en effet, d'un nombre limité d'indicateurs, mais de pouvoir, si besoin, aller plus loin. Mais en effet, déjà cerner ce nombre, ce set minimum, on va dire, d'indicateurs les plus pertinents dans la multitude d'indicateurs qu'on propose. Mais en effet, pour certains, enfin voilà, je le vois dans des groupes de travail qu'on peut avoir dans une ARS avec des acteurs de terrain, en fonction des thématiques, on va avoir besoin d'aller plus finement. Si on veut questionner plus les hospitalisations au long cours, on a besoin d'une série d'indicateurs sur le, justement l'offre médico-sociale, sur les données de personnel, des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut en effet une sélection plus courte de 50, c'est encore beaucoup. Je pense que c'est important de savoir qu'il y a d'autres indicateurs pour pousser l'analyse plus loin si besoin. Voilà, je pense que l'idée, c'est de montrer la multitude de ce qui existe. Et après, en effet, il faut faire le travail de synthèse.
Chacun doit faire son marché. Je crois que c'est important aussi parce qu'en fonction de ce qu'on a à vouloir décrire, chacun doit pouvoir faire son marché.
Eh bien, moi, je vous en parlerai si vous revenez après la pause.
Excusez-moi, je voudrais juste... Je voulais juste ajouter quelque chose, excusez-moi. Depuis tout à l'heure, on est un peu sur un débat, Claude Maresco, un médecin vinatier, on est un peu sur un débat entre le quantitatif et le qualitatif, je crois. Hein, et je pense vraiment qu'on a besoin du quantitatif, donc on a besoin de tous ces indicateurs qui sont là, même s'il faut les choisir, même s'il faut réfléchir aux objectifs que l'on a quand on va les utiliser. Mais le qualitatif, on en a besoin aussi, mais il faut toujours un petit peu s'en méfier du qualitatif. Parce que le qualitatif, c'est s'appuyer sur les avis des personnes, s'appuyer sur le ressenti, s'appuyer sur ce que vont nous dire les gens de ce qu'ils ont pu effectivement ressentir, de leur prise en charge, etc. Mais il faut vraiment les deux. Parce que sinon, on risque de passer à côté de l'objectivité.